Vous écoutez, on lit pour vous.
Dans Charlevoix, le risque de la Disneylandisation. Un texte de Jean-Louis Bordeloup, paru le 28 mai 2024 dans Le Devoir. Le tourisme tout inclus s'enracine dans Charlevoix depuis que le Club Med y a posé ses valises à flanc de montagne. Les projets de chalets pour investisseurs et clients internationaux se multiplient, rappelant le développement de Mont-Tremblant, non sans exclure des citoyens locaux au passage. La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François est rompue au tourisme, avec 40 % de résidences en location courte, le plus haut taux du Québec et de loin. Le paysage a tout de même changé, lorsque le Club Med s'est installé au bout de sa rue principale. « On est le gros dans la région », observe du haut du balcon de son hôtel presque neuf le vice-président canadien de la marque Vincent Giraud. « On souhaite être le mieux intégré et travailler avec tout le monde. » Rendu à son troisième été québécois, le club estime que sa clientèle vient environ à 40 % du Québec, à 50 % du Canada anglais, ou des États-Unis, et à 10 % du reste du monde. Quelques 1 500 Brésiliens sont venus tester le froid l'hiver dernier, souligne-t-il. On travaille au rayonnement de la région à l'international. Ça bénéficie à tous. Cette nouvelle clientèle internationale n'aurait autrement jamais mis les pieds au Québec, et ce rayonnement a encouragé plusieurs hôtels à prendre de l'expansion, bien que ces projets n'aient pas toujours fleuri. Le Géolagon, projet pour le moins contestable, est sur pause depuis 6 mois. Idem pour les 118 condo-hôtels dont rêve le massif. Ce bien immobilier pour investisseurs qualifiés sera réservé 36 jours par année pour ceux-ci et est géré pour location le reste de l'année par l'hôtelier. L'équipe du Massif a déjà ouvert des dizaines de chalets en décembre dernier, pas très loin du Club Med, en espérant qu'il s'agit d'une première phase avant la construction d'une piscine et de plusieurs boutiques. Le Club de la Montagne. Ces idées de grandeur en laissent cependant plusieurs en plan. La multinationale s'est pratiquement appropriée la montagne en investissant le bas de sa pente. Le vestiaire du Club Med se trouve à un jet de pierre du remonte-pente du massif. Les deux entités coordonnent l'ouverture des saisons. L'un nourrit l'autre, et les exigences du géant du tourisme s'appliquent désormais au plus haut des domaines skiables du Québec. Plusieurs personnes gravitant dans le monde du tourisme ont confié au Devoir craindre une Disneylandisation de leur région. Des citoyens de Petite-Rivière-Saint-François, trop gênés pour parler publiquement, ont rappelé au Devoir que c'était des gens du village qui avaient défriché la montagne, puis aménagé les pistes de ski et les sentiers de randonnée. « On se sent plus chez nous », a même laissé tomber un riverain interrogé. Pour preuve, les visiteurs de passage et les clients du Club Med peuvent profiter tout l'été d'un parcours son et lumière à bord du remonte-pente du massif. Cet itinéraire immersif dans la nature diffuse une trame sonore qui tourne en boucle dans les oreilles des résidents du secteur, 6 soirs par semaine, tout l'été. Les tableaux, mis sur pied grâce au président du conseil d'administration, Daniel Gauthier, également cofondateur du Cirque du Soleil, résonnent et dérangent dans un rayon de 3 kilomètres certains soirs, selon les résidents du village. Le public est tout de même au rendez-vous et plusieurs auberges du coin gagnent ainsi de nouveaux clients. L'hiver, les billets de ski sont contingentés, une habitude héritée de la pandémie. Le prix journalier dépasse parfois les 150 $, ce qui rebute bon nombre de skieurs du coin, même parmi les plus nantis. Le mont Grandfond et celui de l'Anse Saint-Jean, au Saguenay, sont devenus les montagnes de rechange. Le massif a aussi restreint les sorties à tarifs réduits pour les écoliers de la région, se rabattant surtout sur des billets pour les élèves de l'école primaire de Petite-Rivière-Saint-François. Ce n'est pas une réduction de la clientèle, mais une précision de celle-ci, indique la porte-parole du massif Isabelle Vallée. Notre virage suit la qualité, la qualité a ce prix-là. La nouvelle clientèle fait la belle part aux fortunes internationales, car cette clientèle ne serait pas venue sans hébergement. Et l'hébergement, c'est ce qui rentabilise nos opérations de montagne, de dire Isabelle Vallier. Le personnel hôtelier vient aussi de l'étranger. L'essentiel des quelques 300 employés de service du Club Med est originaire du Mexique ou d'autres destinations soleil du club. Un changement de cap. Mitchell Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix, joue l'équilibriste entre apport étranger et vie locale. Autour du tiers de l'économie charlevoisienne repose sur sa villégiature, selon lui. On cherche plus une qualité de tourisme qu'une quantité, résume-t-il en entrevue. C'est contre-productif de détruire le paysage, alors que c'est la raison pour laquelle les gens viennent chez nous. En avril 2024, son équipe s'est mise d'accord pour réinvestir 5 % des taxes sur l'hébergement en développement durable, en aidant surtout les entreprises à s'adapter. Tourisme Charlevoix a également adopté une politique d'éco-conditionnalité qui pénalise jusqu'à 15 % l'octroi de subventions en cas de négligence environnementale. Une première touristique régionale au Québec, dit-il. Un répertoire de tous les rabais touristiques pour les résidents de Charlevoix figure aussi sur le site de Tourisme Charlevoix, une mesure à contresens des tout-inclus qui exclut les locaux. C'était, dans Charlevoix, le risque de la Disneylandisation, un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 28 mai 2024 dans Le Devoir.
OVNI, des témoignages pris au sérieux. Un texte de Natasha Schadhauer, paru le 1er juillet 2024 dans Québec Science. Depuis près de 50 ans, un service de l'Agence spatiale française recueille des témoignages de phénomènes aériens inexpliqués et mène l'enquête. « Je t'assure, c'était rond, brillant, et ça volait bien plus vite qu'un avion. » Voilà le genre d'affirmation qui peut facilement vous faire passer pour une personne illuminée. Déclarer avoir vu un ovni, c'est souvent déclencher des rires gênés ou des blagues sur les petits êtres verts. Mais les choses changent peu à peu. À commencer par la déclassification inédite, en 2020, d'enregistrements militaires d'objets volants non identifiés, OVNI, par le Département de la Défense des États-Unis, plutôt discret habituellement. Initialement diffusés sur les réseaux sociaux, ces vidéos montrant des pilotes stupéfaits par un balai d'OVNI suscitaient les hypothèses les plus folles. À tel point que le Pentagone a décidé de jouer la carte de la transparence en publiant officiellement les fichiers. Le but? Dissiper toute idée fausse du public sur la véracité ou non des images qui ont été propagées, selon un communiqué officiel. Dans la foulée, l'Al Domin Anomaly Resolution Office, AARO, ou Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines, était créé en 2022, tandis que la NASA entrait à son tour dans la danse. Une commission de spécialistes avait en effet jugé pertinent d'examiner les ovnis d'un point de vue scientifique, en utilisant notamment le savoir-faire de l'agence spatiale. Objectif annoncé, travailler à mieux comprendre ces phénomènes de manière transparente au bénéfice de l'humanité. Expliquer le surprenant. Si la démarche des autorités américaines est récente, il existe en France un organisme unique en son genre qui a pris près de 50 ans d'avance. Situé à Toulouse, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, GEIPAN, enquête sur les ovnis depuis sa création en 1977. Nous avons un statut unique au monde, explique son directeur, Frédéric Courtade. Nous ne sommes ni une association, ni une entité militaire, mais un service intégré au Centre national d'études spatiales, CNES, l'Agence spatiale française. Un service dont la mission est plus que jamais d'actualité au moment où l'activité spatiale s'intensifie. Augmentation exponentielle du nombre de lancements de satellites, multiplication des désorbitations d'étages de lanceurs ou de fusées pour dépolluer l'espace en forçant leur rentrée atmosphérique. Un point lumineux sur 15 au-dessus de nos têtes devrait bientôt être artificiel, selon une étude de l'Université de Regina, ce qui risque de générer pas mal de questionnements au sein du grand public. Notre mission est d'utilité publique, car diffuser l'information aux citoyens sur ce qu'ils peuvent apercevoir dans le ciel est dans notre ADN, comme le I du sigle GEIPAN l'indique, affirme l'ingénieur. Justement, celles et ceux qui pensent avoir vécu ou aperçu un événement hors du commun, les citoyens témoins, occupent une place centrale au GEIPAN. Les équipes d'enquête ont pour mission de leur apporter une explication pédagogique et rationnelle chaque fois que cela est possible, mais aussi, le cas échéant, de les rassurer, comme l'explique Marie-Pierre Desvignes, responsable des recherches documentaires. On reçoit parfois des témoignages émouvants de gens inquiets, voire affolés. Surtout, personne ici ne se moque des témoins, ni de leurs questions, toujours accueillies comme légitimes, et que les sphères complotistes pourraient, sinon, exploiter. Les complotistes, on ne les voit pas, tient à préciser Frédéric Courtade. Quant aux canulars, ils représentent moins de 1% des signalements. Ceux qui nous contactent sont de bonne foi. Ainsi, pour un financement public de moins de 0,5 centimes d'euros par habitant, selon le responsable, le GEIPAN offre toute la rigueur du CNES et de ses méthodes scientifiques aux personnes qui s'adressent à lui. Vous écoutez OVNI, des témoignages pris au sérieux. Un texte de Natasha Scheidhauer, paru le 1er juillet 2024 dans Québec Science. Traiter la donnée humaine. C'est pour ces méthodes et la longue expérience du GEIPAN que la NASA avait invité en 2022 le précédent responsable du service, Vincent Costes. Leurs experts voulaient en savoir plus sur notre façon de procéder, explique cet ingénieur du CNES. Ils s'interrogeaient notamment sur la manière de traiter les témoignages humains, fragiles et subjectifs, comme données d'entrée. Erreur de perception, mémoire défaillante, croyances, émotions, c'est de cette complexité, inhérente aux capteurs humains, que la NASA aimerait bien s'exonérer. Comment? En remplaçant ces témoignages par des données jugées plus fiables, issues de capteurs technologiques, comme des satellites réservés à cet usage ou des réseaux de caméras. Une démarche qui diffère de celle du GEIPAN. Notre expérience nous montre que les anomalies sont souvent dues aux instruments. Par exemple, des lumières parasites qui se reflètent dans le système optique ou des défauts du capteur, comme des pixels défaillants ou saturés. C'est pourquoi nous acceptons seulement les témoignages visuels, explique l'ancien responsable. En clair, si une personne a photographié ou filmé un phénomène, il faut avant tout qu'elle l'ait vu elle-même. Ces témoignages au cœur de l'enquête le GEIPAN en reçoit pas moins de 700 par an. Ils sont extrêmement variés, explique Marie-Pierre Desvignes. Derrière elle, sur le tableau mural emblématique du service, s'affichent photos et croquis annotés divers, reçus de toute la France. Surtout, c'est également 500 appellent une explication toute simple. Par exemple, le passage d'un train de satellite Starlink et sont traités par un échange de courriel, explique la documentaliste. Les autres cas déclenchent l'ouverture d'une enquête. Nous faisons appel aux compétences du personnel du service, mais aussi à celles d'un réseau externe d'une vingtaine d'enquêteurs et d'enquêtrices, ajoute Frédéric Courtade. Bénévoles, ces derniers se déplacent sur le terrain à la rencontre des témoins et peuvent compter sur l'appui d'un collège de spécialistes. Il y a des astrophysiciens, des météorologues ou encore des spécialistes de l'aéronautique, du traitement de l'image, de la foudre ou de la psychologie, énumère le scientifique. Sans oublier le concours des partenaires du GEIPAN aux solides moyens techniques, comme l'armée de l'air et de l'espace, l'aviation civile, la gendarmerie nationale, le Centre national de la recherche scientifique et Météo France. 3% de mystère. Le GEIPAN est ouvert à toutes les histoires de soucoupes volantes et publie l'ensemble des cas traités, anonymisés sur son site, à l'issue d'une analyse méthodologique. « Nous suivons un protocole strict », explique Frédéric Courtade. À commencer par l'interview des témoins, véritable entretien cognitif élaboré avec un expert psychologue, dans le but de faire émerger les données factuelles. Côté technique, des outils simples, comme l'état météorologique du ciel, une éphéméride astronomique ou un relevé de trafic aérien, peuvent indiquer à l'équipe d'enquête la présence d'un phénomène ou d'un objet tout à fait identifié, éclair, planète, avion, etc., qui aurait été confondu avec un vaisseau spatial. D'autres fois, ces limiers démontrent que le Soleil a illuminé une traînée de condensation, ce qui lui confère un air étrange, ou bien que l'extinction subite d'une lanterne volante en papier a donné l'impression d'un objet volant qui accélère et disparaît. Il s'agit souvent d'une mauvaise estimation de distance et d'une surestimation de la vitesse de déplacement, explique Frédéric Courtade. Un cas classique de défaut de perception à l'origine de nombreuses méprises. Au-delà de 10 mètres, les images stéréoscopiques reçues par nos yeux ne suffisent pas pour évaluer la taille et la distance d'un objet. Et c'est la connaissance que nous avons de celui-ci qui nous permet de faire ces évaluations intuitivement. Face à un objet inconnu et dans un ciel sans repère standard, la recette ne fonctionne plus. En près de 50 ans d'existence, le GEIPAN a analysé presque 10 000 témoignages, dont 6 000 ont donné lieu à des enquêtes et sont publiés, pour un total de 3 000 événements environ. 10 % de ces cas ont nécessité une enquête de terrain. Finalement, seuls 3 % des cas restent inexpliqués. Ce qui ne signifie pas qu'ils sont condamnés à le rester, dit en souriant Frédéric Courtade. Les progrès des connaissances peuvent en effet permettre d'expliquer des cas, parfois des années plus tard. Si ces 3 % représentent pour l'instant un défi, ce sont peut-être seulement des phénomènes scientifiques non identifiés. Ne dites plus OVNI. Les spécialistes ont délaissé le terme OVNI au profit de celui de phénomène aérospatial non identifié ou PAN. Cette appellation dépasse la catégorie objet pour englober également les phénomènes. Malgré les cas inexpliqués, le GEIPAN n'a collecté aucune preuve de l'existence d'une technologie extraterrestre. C'est aussi la conclusion du rapport de l'AARO, publié en mars 2024, sur l'historique de l'implication du gouvernement américain dans les phénomènes anormaux non identifiés. C'était OVNI, des témoignages pris au sérieux. Un texte de Natasha Schadhauer, paru le 1er juillet 2024 dans Québec Science.
Nous perdons la bataille, un texte de Mario Girard, paru le 4 août 2024 dans la presse. En 2023, à un retour de vacances aux États-Unis, je vous ai parlé de l'affreux phénomène des conversations téléphoniques en mode haut-parleur. Chez nos voisins du Sud, c'est maintenant une norme. On tient une conversation en tenant le téléphone devant soi. Je disais dans cette chronique que la chose prenait de l'ampleur au Québec et qu'il fallait lutter contre ça. Un an plus tard, je crois sincèrement que nous sommes en train de perdre la bataille. Cette pratique est maintenant bien ancrée et répandue chez nous. Partout dans les espaces publics, au supermarché, dans l'autobus, dans le métro, sur les trottoirs ou dans les parcs, des gens dialoguent avec une tierce personne, générant du même coup un bruit intrusif et désagréable. On s'entend pour dire que le son d'une voix qui provient de l'enceinte d'un téléphone est absolument insupportable. Ces gens tiennent des échanges, la plupart du temps inutiles, dans la plus totale des insouciances et en prenant bien soin de les étirer. Le bon vieux « je te rappelle plus tard » n'existe plus. Ces personnes jugent, au contraire, qu'il est capital de faire entendre au reste de l'humanité qu'on annonce de la pluie en après-midi et que l'invitation au barbecue chez Jacqueline et Jean-Pierre tarde à venir. « As-tu été invité, toi? Nous autres, on attend toujours qu'elle nous appelle. » Et quand ce ne sont pas des conversations, on a droit à des matchs de soccer ou des séries télévisées visionnées à plein volume. Je n'invente rien. Je me suis déjà retrouvée entre un gars qui regardait une compétition de BMX et une femme qui se tapait un épisode de Seinfeld. Le bonheur, trois choses. Il faut qu'on m'explique. À partir de quand l'écouteur du téléphone qu'on colle normalement à son oreille a-t-il été retiré des fonctions de l'appareil? Pourquoi cet engouement collectif pour cette technique d'écoute? Certains affirment que la peur des effets des ondes sur le cerveau serait à l'origine de cette nouvelle utilisation, plutôt faible comme défense. Pour moi, l'explication est ailleurs, et elle se trouve plutôt dans l'égoïsme à l'état pur. Les gens qui échangent en mode haut-parleur font cela dans le but inconscient, ou peut-être pas, de marquer leur territoire dans l'espace public. Je ne suis pas le seul à voir les choses de cette façon. Des experts qui s'intéressent à ce phénomène le pensent aussi. Et puis, il y a cette perte de notion d'intimité. Les téléphones intelligents nous permettent de transporter notre chez-soi et notre bureau dans l'espace public et de l'imposer à tous, même à ceux qui n'en ont pas envie. Égare à celui ou celle qui tente de faire comprendre à l'autre qu'il faut mettre ses écouteurs. Il aura droit à un regard d'incompréhension ou, pire, à un commentaire désobligeant. Je suis un client assidu des transports en commun. Je peux vous dire qu'une chose a changé au cours des dernières années. Avant, on observait les choses et les gens. Aujourd'hui, on les entend. Dans l'autobus, que le psychologue et psychanalyste français Jacques Arène appelle « le poste d'observation de la rumeur du monde », nous sommes assaillis de toutes parts par du bavardage futile et impudique. Un matin, sur ma ligne habituelle, un homme était en conversation avec un membre de sa famille. Il avait le téléphone sur son oreille. Tout le monde entendait très bien ce qu'il disait, car on sait qu'on a tendance à parler plus fort au cellulaire lorsqu'on est dans un lieu public. La discussion portait sur les préparatifs des funérailles de sa mère. Visiblement, l'homme tenait à resserrer les cordons de la bourse. Il trouvait notamment le prix des urnes exorbitant. C'est tout à fait son droit. Mais nous étions plusieurs passagers à nous regarder avec un air gêné en nous demandant « Va-t-il proposer de mettre les cendres de sa mère dans une vieille boîte de chaussures yellow ?» Pour cet homme, cette conversation avait le droit d'être accessible à tout le monde. Comme une série sur Netflix. Comme une émission de radio. Voilà l'un des effets pervers des technologies de communication. On en vient à ne plus reconnaître ce qui est de l'ordre du personnel et de la confidentialité. Le téléphone intelligent prend une place démesurée dans nos vies. On ne cesse de le répéter, comme on ne cesse de découvrir les répercussions que cela a sur notre santé mentale. La mobidépendance, nomophobie, qui se traduit par la peur d'être séparé de son téléphone mobile ou d'un réseau de communication, est de plus en plus répandue. Ce phénomène toucherait la moitié des internautes, selon plusieurs études. Basée sur la peur de rater quelque chose, la mobidépendance nous rend esclaves et nous amène à tenir des conversations dérangeantes, sans aucun souci du respect d'autrui. Serions-nous rendus à des leçons collectives de civisme sur l'utilisation des téléphones intelligents? Je pense que oui. Tout comme je crois qu'il faut sérieusement réfléchir à un encadrement de leur usage dans l'espace public. Il en va de notre santé émotionnelle, ce qui n'est pas rien. C'était « Nous perdons la bataille », un texte de Mario Girard, paru le 4 août 2024 dans la presse.